Donc chaque dimanche depuis quelques semaines, nous essayons de répondre aux questions, aux objections que peut porter notre entourage. Hier soir, je suis allé voir un ami et l'ami non chrétien est allé me dire « Je ne crois pas, je suis scientifique. » Et c'était comme si c'était pour mettre tout de suite la barrière, les choses sur place, les cartes sur table pour me dire « C'est pas la peine. » Mais si nous aimons notre entourage comme Marie, elle a posé des questions à Dieu. Dieu est aussi celui qui peut répondre. Et l'objectif ce matin, c'est de nous permettre de comprendre comment nous pouvons répondre en tant que chrétiens croyants. La science démontre que le christianisme est faux. La science en général et l'évolutionnisme en particulier ont rendu la croyance en Dieu inutile et obsolète. Plus besoin de comprendre pourquoi le monde est fait, comment c'est fait. Vos anciennes théories, plus besoin. Vous ne pouvez pas tout à la fois être un penseur scientifique intelligent et avoir des convictions religieuses. Richard Dawkins, l'anglais, dans son livre Pour en finir avec Dieu. Auguste Comte, dans son célèbre cours de philosophie positive en 1829, écrit « La théologie et la physique sont profondément incompatibles. Leurs conceptions ont un caractère radicalement opposé. » Est-ce vrai? Comment parler de la foi d'un Dieu à nos contemporains? Plusieurs problèmes sont soulevés. On ne peut pas croire à la Bible parce qu'elle parle de la création. Et si vous êtes rationnel et scientifique, évidemment, vous ne croirez plus en Dieu. Donc, les miracles sont-ils possibles? L'incarnation qu'on fait à Noël, le sacrifice de Jésus à la Pâque, sa résurrection, est-ce possible d'y croire? La science a prouvé que les miracles n'existent pas. Parfois, on entend de telles choses. Si vous avez des amis ou vous venez d'un milieu scientifique. Mais la réponse est tout simple. Il faut avoir beaucoup de foi pour émettre une telle opinion. Ou encore une affirmation totale dans une foi dans la science. Qui dit que la science est équipée pour prouver qu'aucune cause surnaturelle ne peut se produire. Est-ce possible? Est-ce que la science peut vraiment tester et prouver qu'il n'y a pas de cause, qu'il n'y a rien? Pas du tout. La science n'a pas ce moyen. Donc, par ses propres moyens, il est impossible que la science vérifie cette affirmation. Au contraire, un Dieu créateur peut intervenir comme il le veut. Il y a en plus un changement au sein de la science même. Autrefois, on avait la science de Newton qui était très déterminée. Il y a des lois immuables. Après, la théorie de la relativité avec Einstein, et maintenant la science passe à la mécanique quantique. Je ne suis pas scientifique, mais c'est de la sous-atomique, et qui dit que finalement, ce qu'on avait dit était des lois immuables. Les séparations entre les particules et l'énergie est beaucoup, beaucoup plus floue que ce qu'on avait compris. Et finalement, la science de la mécanique quantique nous dit que ce n'est pas du tout déterminé. Il y a des choses, des fluctuations qui sont très, très possibles, très, très présentes. Donc pour ceux qui donc disent que les miracles sont exclus, c'est tout simplement pas vérifiable. Ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas savoir avec une certitude qu'il n'y a pas de Dieu. Et de deux, la science quantique, de la mécanique quantique, nous dit presque le contraire maintenant. Ouvre vraiment la voie qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements possibles. Un dernier élément, avant de passer sur une deuxième étape, Et ça, c'est pour moi. On ne peut être certain que ce qu'on peut prouver. On attend ça souvent. Je ne croirai pas à moins que vous puissiez me le prouver. Ah bon? Et ça, est-ce qu'on peut le prouver? Pas du tout. C'est une affirmation qui est faite dans le vide, qui n'est pas du tout scientifique. Donc, elle se contredit. Et c'est plutôt de la philosophie et pas de la science. Nous, Jésus a dit, soyez sobres comme des serpents rusés, mais aussi doux comme des colombes. Et nous sommes appelés que quand nous dialoguons avec nos contemporains, qui entendent très très souvent ce genre de discours, ne soyons pas ceux qui acquiescent trop facilement. Plutôt, posons-leur les questions par amour, par compassion et aussi par vérité pour leur permettre de s'interroger sur ce qui est vrai et ce qu'ils croient vraiment. Tout en donnant respect, comme dit Pierre, avec une attitude de respect. Mais pas simplement de croire tout ce que les gens disent, au contraire, de tester. Finalement, on va voir un autre domaine. Dawkins qui dit « Les personnes rationnelles et scientifiques ne croient pas en Dieu personnel. » On veut donner l'impression que si vous êtes scientifique, vous êtes intelligent, et si vous êtes croyant, vous n'êtes pas, vous êtes irrationnel. Et c'est encore un préjugé que nous rencontrons, que nous côtoyons assez souvent. Pour en finir avec Dieu, Richard Dawkins encore, c'est tout simplement pas le cas. Regarde cette belle broche de savants chrétiens. Rachel Vagan, chercheur en biologie cellulaire sur le trafic vésiculaire et sur les protéines. Elle coordonne donc le réseau des scientifiques évangéliques. Lydia Jaeger, troisième cycle physique et mathématiques en Cologne, doctorat en philosophie à la Sorbonne. Jean-Marc Moschetta, professeur d'aérodynamique à la SUPAERO, axe de recherche sur les écoulements compressibles, les micro-drones, 20 articles scientifiques avec le livre « Jésus, fils de Joseph et bien sûr fils de Dieu ». Dr. Christian Pellone, docteur en physique, ingénieur et chercheur au CNRS. Si Dieu ne donne aucune justification au pourquoi des choses, c'est que c'est lui qui les a créées. C'est le Dieu à qui rien n'est impossible. C'est le Dieu surnaturel qui est capable d'intervenir dans le naturel. À 27 ans, j'étais jeune chercheur, Dr. Pellone dit, au CRNS, finissant ma thèse de docteur ingénieur. Là, j'ai conclu, à force de tous les raisonnements possibles, que je ne pouvais pas expliquer le pourquoi des choses par la science. La science n'est que la réponse au comment des choses, et elle ne peut pas répondre au pourquoi. Une pensée s'était imposée à moi, il y a une énergie supérieure qui a tout créé, cependant cette énergie, je ne la connaissais pas, car j'étais un être jeté dans l'univers, dans l'évolution universelle à cause des sciences qui m'entraînaient. Il y avait donc une insatisfaction dans mon cœur due à ce semblant de réponse. Quelques années plus tard, il rencontre une jeune femme, bien, profonde, sympathique, réelle, courtoise, avec qui il créait une amitié qui est croyante, qui lui parle et qui de temps en temps même sort sa Bible. Pour lui, la Bible est une ennemie de la science. Elle n'était pas rationnelle. Et donc, il était déterminé de la détruire. Mais il avait du respect à cause de la personne, du comportement de cette femme. Donc, un jour, il dit, « Donne-moi ta Bible. J'aimerais la lire. » Alors, elle lui passe sa Bible. Il commence par le début. Elle avait espéré qu'il commence par les évangiles, par Jésus. En tant que scientifique, il voulait être honnête, donc il commence par le début. Et ce qu'il dit, c'est le suivant. Ce même soir, les premiers mots de la Bible, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », me sautèrent aux yeux. Ils étaient la réponse à toutes mes questions. Ah, que cela m'intéressait en tant que scientifique. Si Dieu ne donne aucune justification, pardon, ou pourquoi les choses, c'est lui qui les a créées. Dr. Francis Collins, directeur des Instituts américains de la santé, dédiait le génomique, un budget annuel de 30 milliards de dollars avec 6 000 scientifiques de ses laboratoires et plus de 300 000 chercheurs des diverses universités et instituts de recherche aux États-Unis et dans le monde entier, avec deux doctorats en chimie et en médecine, spécialistes de la génétique humaine et ayant découvert la génome humaine responsable pour la mucoviscidose. Certains m'ont demandé, est-ce que votre cerveau n'explose pas ? Dans une interview avec la chaîne CNN. Est-ce que vous pouvez poursuivre la compréhension sur comment la vie fonctionne en utilisant les outils de la génétique et la biologie moléculaire tout en adorant un Dieu créateur ? Ne sont pas l'évolution et la foi en Dieu incompatibles ? Peut-on, en scientifique, croire un miracle comme la résurrection ? La réponse de Dr. Collins. En fait, je trouve aucun conflit et aucun apparemment pour les 40% des scientifiques qui prétendent être les croyants. Pardon. La science et la foi sont-ils incompatibles? Un des chercheurs les plus élevés, les plus respectés du monde scientifique, avec des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans ces laboratoires, aucune incompatibilité. Alors, examinons tout simplement là où on peut trouver le conflit éventuel entre la Genèse, ou la création plutôt, et la science. Il y a une branche de la science création, qui est précisée la création à l'américain, qui dit que la Bible parle de 6 jours, de 24 heures, et que la Terre n'a que quelques milliers d'années, là, on peut retrouver un conflit évident avec la science. Mais sinon, il y a d'autres possibilités pour comprendre la création. Il y a le dialogue où Dieu a créé la vie et puis l'a guidé, la sélection naturelle, pour obtenir des formes, l'intégration où Dieu a accompli des actes d'envergure à des moments sur les longues périodes, où l'indépendance où Dieu a commencé et puis a laissé les causes naturelles. Les scientifiques croyant toutes ces positions sont créationnistes. Tout croit à la création, mais tout interprète différemment comment Dieu a créé. Est-ce que c'était avec les forces naturelles ou par des actes directs ou une combinaison des deux. Donc, on n'est pas obligé de dire tout simplement qu'il y avait 6 jours, il y a d'autres possibilités. J'explique pourquoi. Premièrement, quand on lit la Bible, on la lit selon l'intention de l'auteur. On la lit en comprenant qu'est-ce que Dieu a voulu dire. Pas qu'est-ce qu'on lit dedans, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on peut dire, mais qu'est-ce que Dieu a voulu dire. Quelle est donc l'intention de l'auteur? Si on compare Genèse 1 et Genèse 2, on trouve, par exemple, en Genèse 1, un chant poétique, un poème qui célèbre le caractère merveilleux de la création de Dieu, son intention. Il y a un langage exalté. On trouve, par exemple, « C'était bon, et Dieu a dit, matin et soir, que cela soit. » Donc, avec les chants comme un langage imagé. On trouve aussi un ordre de création qui est poétique. La lumière, c'est le premier jour, alors que le soleil et la lune sont créés le quatrième jour. Ou encore, la végétation est créée le troisième jour, mais le soleil, comme on vient de dire, le quatrième après. Donc, on évoque plutôt des idées plutôt qu'un ordre scientifique. Donc, c'est imagé. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens évangéliques, John Stott, Lydia Yeager, Francis Collins, croient que c'est plutôt imagé, que ce n'est pas à prendre littéralement. C'était aussi la vie de Saint Augustin et d'autres avant notre époque. En fait, le mot hébreu « jour » peut être aussi interprété comme un temps, le jour de la joie. Donc, dans l'hébreu, c'est aussi vaste. Par exemple, au chapitre 2, verset 4, « L'Éternel fit la terre et le ciel. » C'est le mot traduit en français par « lorsque », mais en hébreu, c'est « le jour ». Donc, c'est un terme plus large. Donc, c'est pourquoi on peut estimer que c'est pas nécessaire de trouver un conflit entre la création et la science. C'est simplement la façon de lire la Bible. Et il y a, quant à ces deux premiers chapitres de Genèse, une largesse qui permet beaucoup, beaucoup de compréhension. Et en tant que scientifique, c'est pourquoi on peut dire qu'il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit pour ceux qui sont scientifiques avec la création. Et donc, l'ami hier soir avec qui je suis allé parler, il m'a dit, mais il y a conflit, il y a création. Et j'ai dit, non, il n'y a pas. Si on regarde la création, Genèse chapitre 1, versets 12 et 20, la terre produit la verdure qui contient la semence qui donne son fruit. Il y a au moins 4 étapes. La terre, la verdure, la semence et son fruit. Alors, chaque chose qui se donne à l'autre, qui se crée, donc, il y a une continuité ici. Donc, Dieu peut créer d'une façon immédiate en se servant des moyens de la terre qu'il a créée à première place pour que ces choses, par la suite, donnent, par la semence, donnent un fruit à d'autres. Donc Dieu, quand il créait, il peut aussi utiliser un processus. Ou encore, David, dans le psaume, « Je suis tissé au fond de ma mère. Mon être n'était pas caché de tes yeux. » Le psaume 139. Alors, un processus de 9 mois pour que notre vie, même la vie du Seigneur Jésus-Christ, prenne forme. Donc Dieu, parfois, se sert des processus pour créer et pour donner vie. L'homme qui est né de la poussière de la terre, bon, il y a plusieurs façons de comprendre le mot sol ou poussière. En tout cas, ce qui est plus clair, c'est Adam et Ève sont deux personnes. On ne sait pas à quel moment Dieu les a fait, mais ces personnes sont des personnes qui avaient un choix important, et que nous étions compris dans ce choix de se rebeller contre Dieu, et de par la suite, le mal s'est répandu sur tout être humain. Donc là, c'est quelque chose qui est clair de leur personne, bien que nous ne comprenions pas l'origine d'Adam et d'Ève. Tout a été fait par l'évolution. Est-ce que c'est que de l'évolution? Pas de Dieu? Pas du tout. Parce que là, si on commence par l'évolution, pour certains scientifiques sans Dieu, ça reste beaucoup de questions. Quand l'évolution se transforme en une théorie qui englobe tout et explique absolument tout, ce que nous croyons, ressentons et faisons, et le produit de la sélection naturelle, nous ne sommes plus dans le domaine de la science, mais plutôt dans celui de la philosophie. S'il n'y avait pas de créateur, comment expliquer les constantes de la physique qui sont très, très limitées pour qu'il y ait de la vie? La vitesse de la lumière, la force de la gravitation, les forces nucléaires fortes et faibles. S'il n'y avait pas une précision très, très nette et constante, il n'y aurait pas eu de vie. La probabilité d'une vie sans créateur est calculée à 1 sur 10 quadrillions fois 10 quadrillions. Alors, c'est extrêmement vaste. peu probable, extrêmement peu probable. Alors, la personne qui ne croit pas en Dieu dit, ben, d'accord, mais tu n'as pas dit que ce n'est pas possible. Il est possible. D'accord. Mais imaginons que des personnes ce soir, vous vous asseyez, ou cette même personne ce soir, pour jouer aux cartes. Vous jouez au poker et vous sortez 20 fois de suite 4 as. Avec l'argent sur la table. Non, je sais que vous... Et que l'autre personne dit, il y a un truc, 20 fois par suite, 4 as. Et là, il pose plus de questions, il appelle la police ou il descend d'autres. Admettons que c'est peu probable, mais notre vie ne fonctionne pas comme ça. Nous ne vivons pas dans le très, très peu probable. Nous vivons dans la réalité. Nous vivons dans le probable. Alors, il est bien moins probable un quadrillion fois un quadrillion que la vie sans Dieu existe. Et prétendre donc qu'on veut prendre cette chance-là n'est pas du tout logique. C'est irrationnel. D'autant plus que la science physique ne peut pas rendre pleinement justice à la réalité telle que les êtres humains l'expérimentent. On a posé la question à un éditeur de journal, Thomas Nagel, qui n'est pas croyant en Dieu, il est athée. Est-ce que la science peut tout expliquer, l'être humain, ses rêves, ses aspirations, son vécu? Non. Je ne crois pas que ce projet... Je crois que ce projet est condamné. Que l'expérience de la conscience, la pensée, la valeur ne sont pas des illusions, même si on ne peut pas les identifier comme des faits physiques. C'est-à-dire que la science en soi n'est pas suffisante, n'expliquera pas la vie. Même les athées sont prêts à ne pas tout réduire à une évolution, à une vie sans Dieu. Par exemple, les questions que Dr. Collins, chercheur, directeur de l'Institut de santé américain. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi le monde est-il ordonné? Pourquoi y a-t-il des constantes physiques dans l'univers si finement réglées pour permettre la possibilité de formes de vie complexes? Pourquoi l'homme peut-il comprendre l'ordre de la nature? De la comprendre? Comment distinguer le bien du mal? Pourquoi les humains ont-ils un sens moral? Quel est le sens de la vie? Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Ce sont les questions auxquelles la science ne peut pas répondre. La science explique les comment des choses, mais jamais, comme a dit Dr. Collins, elle ne peut pas expliquer le pourquoi. Ou encore, l'être humain, la conscience de soi, ses capacités rationnelles, sa liberté d'action, est-ce que ce sont simplement des formes sophistiquées d'être un animal? Si c'est le cas, pourquoi tenir un homme responsable et laisser l'animal? Ce n'est que s'il y a un être humain qui est à part, qui a une conscience, qui a la capacité transcendante de penser à Dieu, croire en Dieu, qu'on peut tenir l'être humain, qu'on peut l'apprécier à sa juste valeur et qu'on peut le garder responsable. Et dernièrement, si je considère que mon intellect n'est que le résultat du processus évolutionniste, je réfléchis parce que la chimie est comme ça, je ne peux être assuré d'aucune vérité. Mes pensées sont simplement la suite de la science. Ce n'est pas vraiment mes pensées à moi, je n'ai aucune faculté indépendante de libre arbitre, je suis cependant déterminé par la science. Alors la vie est réduite à pas grand-chose. Et finalement, il faut un appel à l'humilité auprès des sciences, de la science. La mécanique newtonienne a prôné le déterminisme pendant 200 ans, a cédé la place à la relativité, qui cède la place à la mécanique quantique, qui reconnaît que les atomes et l'énergie sont bien plus complexes que ce qu'on a cru. Il n'y a pas de loi stricte qui détermine tout mouvement dans l'univers. selon Lydia Yeager, on ne connaît que 4%, 4% de ce qui existe dans la physique de l'univers. Le reste, elle dit, est fourni par la matière noire et l'énergie noire. Elle explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous ne possédons aucune description théorique satisfaisante. C'est noir, c'est opaque, on ne comprend pas. C'est donc une invitation pressante à rester humble. La science change et ce qu'on sait actuellement est très très peu. Et donc, Dr. Yeager conclut, en cas de conflit, il ne revient pas de façon unilatérale à la théologie de toujours céder face à la science. Le témoignage de Francis Collins face à CNN en 2007. Je suis un scientifique et un croyant. Je ne trouve aucun conflit entre ces visions du monde. Je n'ai pas toujours compris ces perspectives. Comme étudiant diplômé en chimie physique pendant les années 70, j'étais athée. Nous trouvons aucune raison de postuler l'existence de toute vérité à l'extérieur des mathématiques, de la physique et de la chimie. Puis, je suis allé à l'école de médecine et j'ai rencontré au chevet de mes patients les questions de la vie et de la mort. Poussé par l'un de ces patients qui a demandé « Que croyez-vous, docteur ?» J'ai commencé à chercher des réponses. J'ai eu à admettre que la science que j'adorais était en grande partie impuissante à répondre à ces questions. Quel est le sens de la vie? L'univers habite un début, qui l'a créé? Qu'est-ce qui se passe après notre mort? Pourquoi les êtres humains ont-ils un sens moral? J'ai toujours supposé que la foi était fondée sur des arguments purement émotionnels et irrationnels, et était étonné de découvrir au départ dans les écrits de l'érudite Oxford C.S. Lewis et par la suite de nombreuses autres sources qu'on puisse construire un cas très fort pour la plausibilité de l'existence de Dieu, pour des motifs purement rationnels. L'affirmation de mon athéisme précédente, je sais qu'il n'y avait pas de Dieu, est apparue comme le moins défendable. Mais la raison seule ne peut prouver l'existence de Dieu. La foi est la raison plus la révélation. Et la partie révélation exige de penser avec son âme, aussi bien qu'avec son esprit. Vous devez entendre la musique, pas seulement lire les notes sur la page. En fin de compte, il faut un acte de foi. Pour moi, ce saut est venu dans mon 27e année, après qu'une recherche pour en savoir plus sur le caractère de Dieu m'a conduit à la personne de Jésus-Christ. Sa personne, avec les preuves historiques remarquablement fortes concernant sa vie, qui a fait les déclarations étonnantes sur aimer son prochain et dont les revendications d'être le Fils de Dieu semblent exiger une décision. Quant à sa personne, était-il quelqu'un de déçu ou véritable? Après avoir résisté pendant 2 ans, j'ai trouvé impossible de continuer à vivre sans un tel état d'incertitude et je suis devenu disciple de Jésus-Christ. Les questions que Dieu met dans nos cœurs, les rencontres auprès des personnes aimantes, intègres, qui s'intéressent aux autres, de leur montrer Jésus-Christ, de parler de Jésus-Christ, permettent que ces questions qui sont irrésolues, que la science ne peut résoudre, restent et que les scientifiques ou ce monde qui adore la science, comme disait Dr. Collins, peut encore aller plus loin parce que la science ne peut répondre à des questions fondamentales, ne peut évaluer l'être humain à sa juste valeur. Romains 1, versets 19 et 20, l'apôtre Paul le dit très clairement. En effet, nul n'est dépourvu de la notion du vrai Dieu. Tous les hommes ont une conscience innée de lui, lui-même l'ayant placée avec netteté dans le cœur. Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ces perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Ainsi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Romains chapitre 1, verset 19 à 20. Quoi en conclure? Mon espoir, ma prière, mon exhortation à nous tous et à moi en premier est que nous n'ayons pas honte d'un évangile si merveilleux, d'un Dieu si vaste, créateur, qu'on ne va jamais comprendre, dont l'univers on ne va jamais comprendre, qu'il se penche à nous. Que ce Dieu infini et merveilleux qui a créé, qui nous a créés, que nous soyons l'objet de son affection, de sa mort pour nous, afin de nous racheter pour l'éternité. C'est quelque chose qui est largement, qui nous dépassera parce que nous sommes des êtres finis. Alors que tout ce qu'est Dieu, cet évangile, tout ce qu'il nous offre, est sa personne. Vaste et créateur. Aussi, quand on pense à notre vie, sachez que Dieu est capable de prendre soin. Un Dieu si infini, si gracieux, si merveilleux, qui met en place les étoiles et la lumière et la terre et les animaux, il peut aussi veiller sur nous, sur notre quotidien. Autant qu'il est transcendant, il est aussi celui qui s'approche et qui se révèle. Et ça, bien que cela puisse nous dépasser, c'est ce Dieu-là merveilleux et infini et riche que nous adorons et qui se donne à nous dans la personne de Jésus à Noël, en devenant homme, vivre, mourir pour racheter sa création. Nous avons un Dieu qui est merveilleux et qui vaut notre adoration. Et finalement, nous avons un Dieu qui est aussi celui qui a commencé la vie, c'est aussi celui qui l'achèvera, qui l'amènera à une bonne fin. Et c'est là où nous avons à veiller sur nos voies, à veiller sur nos propres vies, pour lui plaire, pour entrer à l'éternité avec lui, à cause de Jésus-Christ, mais aussi pour jouir de ses hauts faits. Un Dieu si grand qui sait se pencher sur nous. Et finalement, comme dit Francis Collins, l'éminent physicien scientifique, on ne vient pas à une croyance par l'argumentation intellectuelle seulement, mais aussi à cause des facteurs sociaux et psychologiques, à cause de son ami, de ses amis, de la souffrance, des épreuves, ou même par le rejet de la vie. On ne doit donc pas seulement dire des idées rationnelles à des personnes sans considération du vécu. Nous pouvons et nous devons parler auprès de nous de qui est Dieu, de notre vécu, de ce qu'il fait pour nous, de ce que nous comprenons. Ne soyons pas intimidés. Ne soyons pas intimidés par ceux qui peuvent parler de la science. Ils ont aussi beaucoup, beaucoup de questions auxquelles ils ne peuvent répondre. Mais vous, vous pouvez leur en parler. Père éternel, nous voulons tout simplement te remercier que pour ton grand amour, tu es un Dieu qui nous dépasse largement. Tu es un Dieu merveilleux dans la création, mais aussi Dieu qui a su se pencher vers nous pour te révéler à nous, pour que nous te connaissions personnellement et pour que les questions les plus profondes, les plus réelles de notre vie trouvent un sens et aussi dans le quotidien que toi-même tu nous accompagnes, que ce Dieu créateur et souverain qui veille sur ce monde et qui veille sur sa fin, fera de sorte que nous y arrivions au bon port avec toi. Donc nous voulons simplement te rendre grâce et reçois encore notre adoration. Merci pour la vie que tu nous donnes, merci aussi pour la vie spirituelle et que tu nous donnes en plus, surtout. Et merci parce que c'est toi qui veilleras à nous amener jusqu'à devant toi pour partager l'éternité devant un Dieu si merveilleux, si infini et si extraordinaire. Nous voulons aussi te demander de nous aider à nous débarrasser de toute timidité, de ne pas parler auprès de nous, mais plutôt au contraire, de pouvoir expliquer ce que nous savons, qui tu es, ce que tu as fait pour nous, et d'aider d'entendre les questions de nos contemporains, mais d'essayer aussi de leur apporter quelques éléments de réponse pour qu'eux, à leur tour, puissent te trouver. Au nom de Christ. Amen. Voilà. Je donnerai un petit résumé pour vous aider si vous le souhaitez.